Amen. Asseyez-vous, bien-aimé. Voilà, merci. Merci au Seigneur pour ce moment de louange. Et c'est toujours moi qui reste devant vous pour la prédication. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier encore. Je vais demander au frère Raymond s'il veut bien. S'il veut bien prier. S'il te plaît.
Que nous soyons prêts à écouter, mais aussi prêts à mettre en pratique. C'est notre prière dans le nom de Jésus.
Amen. Merci, frère. La prière est importante, nous le savons, elle est primordiale pour nous, chrétiens. Nous avons vu ce mois-ci, en début de mois, en tout cas lors de deux prédications, que nous devons en tant que chrétiens prier pour nous-mêmes. Il y a tout type de prière, ça nous le savons. Ce matin, c'est une prière bien particulière qui nous est relatée que j'aimerais que nous traversions et voir qu'est-ce qu'on pourrait en tirer. Pas pour le contenu, mais dans la démarche. C'est la prière du roi Salomon. Et je vous invite à suivre 1 roi, chapitre 3, versets 4 à 15, qui est affiché, version Louis Sauvon. Est-ce que tu as version Sommer? Version Sommer. C'est Louis Sauvon. C'est pas grave. Je vais lire en version Sommer. Vous allez suivre en version Louis Sauvon. Ça fera un exercice de concentration et de comparaison qui est pas mal. Verset 4. Un jour, le roi se rendit à Gabaon où se trouvait le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes à cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là, en songe, et lui dit, « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit, « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. » Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi. Un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice à ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que personne... Pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Ainsi, enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole et, comme le frère a dit, à la mettre en pratique. On va parler ce matin de la sagesse par rapport à la demande de Salomon et voir comment nous, chrétiens, on peut se l'appliquer. Le texte nous dit que le roi était à Gabaon, une ville située sur le territoire de Benjamin. Si vous avez une carte à la maison ou même derrière vos Bibles, c'est à 8 km à peu près au nord de Jérusalem. Là, le texte nous dit que se trouvait le haut lieu le plus important. À cette époque, il y avait encore des hauts lieux, mais c'était des hauts lieux, on va dire, spécifiquement dédiés à l'Éternel. L'Éternel ne voulait pas de haut lieu. Cela était toléré. Ce à l'Éternel était toléré parce qu'il n'y avait pas encore de temple. C'est Salomon qui construira le temple quelques chapitres plus loin. Et d'ailleurs, dès que Salomon, pour la petite histoire, inaugurera le temple, l'Éternel dira plus de haut lieu, quel qu'il soit. Mais là, c'était encore toléré. Et donc, Salomon revient d'une grande célébration religieuse qui avait marqué sa prise de fonction. Et là, il se retrouve là, à Gabaon, pour offrir un important sacrifice. Et Dieu y a consenti, puisque il se révèle à lui dans la nuit même. Et lui fait une demande royale, c'est bien le cas de le dire. Demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon a le choix là de toute une vie. Imaginons un instant que Dieu non seulement soit au milieu de nous, et il l'est, mais qu'il s'approche de chacun de nous et nous demande personnellement maintenant, demande ce que tu désires, je te l'accorde. Quels seraient nos souhaits? Quelle demande lui ferions-nous? Imaginons que l'un d'entre nous, et il y en a, se sente écrasé en pensant par exemple à un nouveau travail à commencer ou un travail dans lequel il est, mais ça ne se passe pas trop bien. Ce qui arrive fréquemment d'ailleurs. Un étudiant qui doit poursuivre ses études, des fiancés qui doivent se marier, ou un jeune homme, une jeune fille qui voudrait bien se marier, une situation, une orientation, des examens. Quelle serait, dans une réunion de prière, notre demande au Seigneur pour cette personne? Salomon, lui, était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était écrasé à l'idée de prendre sa charge de roi. Il a succédé à son père David, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas hésité à le dire. Je pense même qu'il n'a pas hésité à le proclamer. Et lui, Salomon, un petit jeune, doit monter sur le trône. Il a des frères plus grands qui légitimement sont avant lui dans l'ordre de succession. Mais c'est lui qui a été choisi par son père très tard, donc dans des conditions particulières. Si son père encore avait dit ça très tôt, pratiquement sur son lit de mort. Là aussi, ça ne l'a pas aidé. Eh bien, c'est lui qui doit monter, un petit jeune. C'est bien le cas de le dire. Et là, Dieu se révèle à lui, demande ce que tu désires. À 20 ans, 22 ans. Le texte biblique nous dit plus loin que sa prière plut à Dieu. Alors, qu'est-ce que ce jeune, comment, qu'est-ce qu'il faut en tirer de sa prière pour qu'un jeune de 20 ans, Dieu lui dise, Dieu approuve sa prière. Même si nous ne sommes pas appelés à la magistrature suprême, en tant que roi, en tant que président de la République, par exemple, pour nous dans notre pays, nous avons chacun pour notre propre vocation de vie, là où nous sommes placés, eh bien, nous avons à vivre sur cette terre comme des serviteurs du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme instruction? La question de Dieu est surprenante et déroutante, à mon avis. Et si elle l'est, la réponse du roi l'est d'autant plus. Verset 7, verset 6 même, le roi commence sa réponse, non pas en disant « j'aimerais bien telle chose » ou « je veux telle chose », mais il commence par se montrer reconnaissant à Dieu envers son père, le défunt roi David, pour le trône qui est là, présent, et pour lui-même en tant que successeur. Et à la fin du verset 7, il reconnaît son incapacité à diriger sans Dieu. Donc Salomon commence sa prière, il a déjà dit 2-3 phrases, il n'a rien encore demandé. Et c'est sa réponse. Il se montre reconnaissant. Oh Dieu, merci. Merci pour moi que tu as fait régner à la place de mon père David, alors que je ne suis qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Et il reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien faire. Dès les premiers versets, on a déjà des enseignements très pratiques dans notre façon de nous adresser à Dieu et plus précisément de demander des choses à Dieu. Quand on commence à prier, est-ce qu'on dit de suite, Dieu, je voudrais cela? Alors que nous savons, et les psaumes nous les enseignent, que Dieu est un Dieu qui aime la reconnaissance de son peuple. C'est un roi humble auquel on a affaire là. Je trouve même une forme de sagesse avant l'heure. C'est la première personne du pays. Et il nous montre là qu'en tant que première personne, il est humble. Cela pourrait nous inspirer. Cela pourrait inspirer les grands de ce monde aussi, mais je ne m'adresse pas à eux. Il se place en qualité de ce qu'il est, un simple homme qui, sans Dieu, ne peut rien accomplir, bien-aimé. Lui qui avait tout pouvoir humain. Le roi en vient donc au cœur de sa réponse, après ce préambule, on va dire, et demande, là encore aussi surprenant que cela puisse être, la sagesse, l'intelligence ou encore un cœur écoutant, selon certaines versions. Et les raisons qu'il avance, c'est-à-dire pouvoir administrer la justice pour le peuple, pour que ce dernier sache discerner le bien du mal, est surprenant également. Salomon, bien qu'il demande quelque chose pour lui-même, pense aux autres. Il demande la sagesse, mais pourquoi? Pour ses compatriotes, pour son peuple. Et On a vu, je l'ai souligné en début de mois et même quelques mois en arrière, on a entendu des prédications qui nous disaient de prier pour nous, ce qui est juste. Ici, on a un autre type de prière également, la prière pour nous, pour autrui. Seigneur, accorde-moi telle capacité ou je vois que j'ai telle capacité, développe ça en moi, Seigneur, pour aider les autres, pour me mettre au service d'eux. Pas pour moi, j'allais dire pas que pour moi, mais ici, c'est vraiment pas pour moi. Salomon n'a pas dit, je ne sais pas, mais il a dit vraiment pour administrer. C'est un autre type de prière. Aussi bon que de demander à Dieu des choses pour soi, bien-aimé. Il n'y a pas opposition là. Quelquefois, on prie exclusivement pour soi et il le faut pour notre marche. Et quelquefois, on prie pour que Dieu nous bénisse pour les autres. Lui qui avait la richesse, la gloire, il aurait pu en demander plus. Et Dieu lui fait remarquer cela. Je ne sais pas si Dieu l'aurait réprimandé pour cela, mais il aurait pu. Mais il demande autre chose. Et Dieu est satisfait de cette demande et il le lui dit. Et lui dit un peu plus loin, au verset 13 et 14, qu'il lui donne en plus ce qu'il n'avait pas demandé, c'est-à-dire pas seulement la richesse, la gloire et tout ça, mais il lui donne ce qu'il avait déjà. Puisque il a richesse, la gloire, s'il n'en avait pas, Dieu lui donne. Mais en lui donnant cela, on est bien d'accord que David qui laisse un royaume important, Salomon est déjà riche. Eh bien, Dieu lui donne ce qu'il a déjà. Donc, il lui donne doublement ce qu'il a. Quelle bénédiction! Et ce fut un roi sage. On a beaucoup de traces de sa sagesse qui est devenue même proverbiale dans nos Bibles. Les proverbes, l'Ecclésiaste. Même si en termes de famille et de lit, ça ne lui a pas empêché quand même de sombrer à la fin. C'est une parenthèse, mais très pratique. La sagesse ne nous empêche pas de nous détourner de Dieu. Bon, tout cela est bien beau, Salomon était un roi, ça lui a bien servi, mais pour nous aujourd'hui, est-ce que la sagesse est aussi importante pour nous? Est-ce que nous considérons que c'est une qualité, une vertu primordiale dans notre vie, au même titre que d'autres qualités, d'autres vertus et d'autres moyens de sanctification? C'est une question plutôt personnelle. On peut se poser aussi une autre, en tout cas que je me pose et que je me suis posé. Finalement, Dieu nous accorde-t-il tout ce que nous désirons à l'instar de Salomon? Demande ce que tu veux que je t'accorde et je te l'accorderai. Non pas j'évaluerai, je te l'accorderai. C'est par cette deuxième question que j'aimerais continuer. Elle s'emboîte à la deuxième aussi, à la première. Dieu nous accorde, bien-aimés, ce qui est en accord avec sa volonté. Et c'est la parole qui nous le dit. 1 Jean 5, versets 14 et 15 nous dit, « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » C'était vrai pour Salomon. Mais pour nous chrétiens, puisque c'est l'apôtre Jean qui l'écrit, cela est vrai et cela est déterminant. Dieu nous accorde ce qui est en accord avec sa volonté. Maintenant donc, se pose une question, comment savons-nous ce qui est conforme à la volonté de Dieu? Romains 12, verset 2 nous dit, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Avoir l'intelligence et l'esprit renouvelés par une méditation, une lecture active de la parole, dans une culture de la prière, de la relation avec lui, nous sommes renouvelés. Nous devenons intelligents chaque jour un peu plus. Nous ne nous laissons pas modeler par le monde actuel et nous pourrons discerner quelle est la volonté de Dieu, donc ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, afin que nous demandons des choses que nous recevons. Soyez transformés, c'est l'œuvre de Dieu en nous par son esprit qui nous fait discerner ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En somme, c'est la sagesse. C'est un cœur à l'écoute. Dieu nous accorde ce que nous lui demandons et qui est en accord avec sa volonté. Et nous connaissons sa volonté quand nous sommes transformés dans notre intelligence. Notons que dans le récit de ce matin, Salomon demande les moyens d'accomplir son métier. Pas que tout aille tout seul de façon magique, sans effort, sans difficulté. Non, il demande de pouvoir accomplir sa mission. C'est une orientation très pratique pour nous. Par exemple, quand on a des difficultés au travail, et nous en avons, est-ce qu'on prie simplement pour que ces difficultés disparaissent? Ou au contraire, est-ce que nous prions que Dieu nous donne toutes les capacités qu'il nous faut, le support, l'amour, un cœur apaisé et non prompt aux réactions? Est-ce qu'on demande cela à Dieu pour faire face aux difficultés? Sachant, bien aimé, que les difficultés non seulement font partie de toute l'humanité, mais surtout pour nous en tant que disciples de Christ. On a tué Christ, même si c'était dans le plan de Dieu, les hommes l'ont accompli. Les disciples que nous sommes ne sont pas plus grands que le Maître. La Dolce Vita ne fait pas partie de notre vie chrétienne. Non. Mais au contraire, les difficultés sont attachées à nous. Comme le papillon est attaché au miel. Seulement Christ est avec nous et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les proverbes, chapitre 1, verset 7, nous dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. » Christ, en venant sur la terre, a donné sa vie, afin que quiconque et nous, croyons en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3, 16. Depuis son avènement, il est la sagesse incarnée. Cette sagesse dont chaque homme, chaque femme a besoin. C'est une sagesse plus grande encore que celle de Salomon. 1 Corinthiens 1, versets 23 et 30 nous dit Or, nous, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Par lui, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. La sagesse est une personne, c'est Christ. Et en lui se trouvent toutes les réponses aux questions et aux problèmes des hommes. Ce texte nous dit qu'en effet, il nous apporte la justice par sa mort qui nous permet d'être déclarés justes devant Dieu. En cela, il est notre sagesse. Et on connaît ce cantique sur les ailes de la foi. Jésus-Christ est ma sagesse. Christ est notre sagesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. De même, Romains 1, verset 7, dit, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Nous recevons aussi par Christ cette sagesse, la purification sur la base de sa mort. Nous recevons l'esprit qui transforme notre être intérieur. Nous recevons la délivrance car sa mort nous libère de toute condamnation. Cela a été rappelé. Colossiens 2, verset 3 dit, « En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, c'est-à-dire en Jésus. » Pour Paul, tout est en Christ et il est inutile de chercher une autre source de sagesse et de connaissance. Notre présent et notre avenir sont en Christ. Notre sagesse. Il est plus grand que la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Je trouve que Salomon a déjà une belle sagesse. Dieu dit de lui qu'avant lui, il n'y a eu aucun homme plus sage et après lui non plus. Que dire pour nous qui sommes en Christ, qui avons tous Christ en nous, donc la sagesse incarnée. N'empêche que des fois, nous, il faut le dire, nous manquons de sagesse. Et nous pouvons toujours revenir au pied du Seigneur pour lui demander de renouveler cette sagesse en nous, bien-aimés. Parce que de même que Salomon en avait besoin pour exercer son métier, nous en avons besoin pour vivre, accomplir toutes nos tâches comme n'importe quel homme. Et nous avons surtout besoin de cette sagesse pour nous sanctifier. Parce qu'un jour, Christ reviendra. Et seuls ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie partiront avec lui. Et nous guettons tous ce jour, n'est-ce pas? Restons attachés à lui. Restons collés à lui. C'est ce que nous avons de mieux à faire pour notre vie ici-bas, bien-aimés. Amen. Amen.